Demain, 7h55, dans le Pit Stop, 14h. Toute la gang, Audrey aussi, dans le retour.
Bye! Bye. Keep on rolling,
baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby! Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Je vous présente ce soir mon premier coup de foudre radiophonique. Ça arrive, ça, des coups de foudre radiophoniques. Elle s'appelle Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. Elle est éducatrice spécialisée. Salut, Paul Lévesque.
Écoute, c'est un bonheur de te retrouver, cher ami.
Là, les gens de Montréal te découvrent, les gens de Québec te découvrent. Et de plus en plus, Paul Lévesque, à travers la province, il y a des gens qui apprennent à connaître cette personne-là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, d'où viens-tu?
Oh non, je peux pas croire. C'est j'ai l'air d'une débutante, là.
Ah ben, tu sais quoi? On n'a pas le choix, c'est de la radio live.
Je veux juste commencer par dire que ça part mal. Je peux pas croire, ouais. Je ferme ça.
C'est pas une chanson de striptease, ça?
Ben là, je sais que toi, tu vires tout croche. Bon, là, je veux juste vous dire que ça fait quand même 16 ans que je fais de la radio.
Ouais, exact.
Même si ça n'a pas l'air de ça, alors je m'excuse pour mon téléphone.
Donc, d'où vient Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain? Comment ça fait en sorte que tu es devant nous ce soir?
C'est mon désir depuis l'enfance d'aider. Donc, il paraît que quand j'étais plus jeune, ma mère me disait que moi, un jour, je vais aider les malheureux. Puis je me suis inscrite en théâtre.
OK.
Puis j'ai fait 2 ans. Puis je me suis dit, j'ai envie d'aider les autres. Fait que j'ai bifurqué, puis je suis allée en éducation spécialisée. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de fusionner plusieurs de mes passions parce que je donne de nombreuses conférences. Donc, ça me permet d'exploiter ce côté plus théâtral. Mais de faire de la consultation, moi, j'aime ça rentrer par toutes les portes. Je dis, je veux être un virus positif qui contamine puis qui rentre par toutes les portes possibles. Donc, je suis auteur, je suis en consultation, je fais des conférences, je suis à la radio, je suis blogueuse. Bref, puis là, j'ai un chien qui s'appelle Henri, qui a 4 ans, qui est un gros golden de 80 livres, qui a commencé à faire de l'intervention avec moi. Tu savais pas ça, ce bout-là, Yannick? On a commencé à faire du service à domicile pour les soins palliatifs. C'est un cabotin terrible, mais quand il arrive là, je sais pas ce qui se passe. Et je ne veux pas être payée pour cette partie de mon travail-là, donc je demande aux gens de donner pour Mira ou pour donner pour tout ce qui concerne les chiens, finalement, les refuges, etc. Puis, donc, je veux créer toutes sortes d'événements. Mon seul but, c'est d'entrer en contact avec les humains que j'aime plus que tout.
Ouais. Est-ce que les gens souffrent, Paul?
La souffrance fera partie de la vie pour toujours.
Ouais.
Elle est juste à côté du bonheur. Donc, moi, je dis tout le temps, le bonheur, c'est du répit. Du répit à la souffrance, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille.
Ouais.
Puis la souffrance a changé de visage, a changé de façon de s'exprimer aussi. Les gens souffraient il y a 100 ans, mais ils se fermaient à gueule.
Ouais.
Souffrance, silence.
Mais je te poserais cette question-là. Il y a des gens qui ont le bonheur facile, puis qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais eu de souffrance. Il y a des gens qui ne font que souffrir toute leur vie. Est-ce que pour apprécier les moments où tu es heureux, il faut avoir été, excuse-moi l'expression, mais en bon français, crissement triste?
Écoute, c'est tellement une bonne question parce que on fuit le bonheur, la souffrance comme la peste. Et des fois, je répète, elle est juste à côté du bonheur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans des états où tu n'étais vraiment pas bien et on dirait que chaque petite parcelle de bonheur te rend confortable? On dirait que quand tu es très confortable dans la vie, tu apprécies moins.
Ouais.
Tu n'as jamais apprécié autant respirer après une grippe. Prends juste l'accident qu'il y a eu. On a eu un accident dans la Beauce, là.
Secteur de Beauce, un jeune garçon de 14 ans qui était, était à une sortie avec ses amis. Dans le secteur du lac Etchemin, c'était des jeunes cadets. Il était près d'une vingtaine dans l'autobus. Puis malheureusement, le jeune homme était assis juste derrière. Juste à côté de la porte de sortie et malheureusement décédé. Là, l'autobus a fait une sortie de route. C'était extrêmement glissant. Il est rentré dans un fossé. Puis le jeune homme a perdu la vie. C'est une tragédie. Puis je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais moi, ce matin, des auditeurs qui m'ont envoyé de l'information. Ça arrive souvent la nuit. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent à moi la nuit. Une vidéo TikTok où tu entends le jeune garçon quelques secondes avant l'impact. Chanter une toune des Cowboys fringants.
Ben non, j'ai pas vu.
Ouais, ben je te l'enverrai tantôt, mais on m'a envoyé ça ce matin. Il était aux alentours de 3h, 4h du matin, puis j'ai eu une petite larme, là.
Ça fesse.
Ben surtout que la mère a écrit en dessous de la vidéo TikTok où elle entend son fils chanter « L'Amérique pleure ». Elle écrit « Je vais t'aimer toute ma vie, mon fils ».
Ah.
Ça m'a arraché le cœur, ça.
Ben, tu sais, ces événements-là, on se met à souffrir d'empathie sociale.
Oui.
Et quand ça arrive, c'est comme si tu te l'appropriais et tu disais « Ouf, moi, je suis tellement chanceux, j'ai encore ceux que j'aime. » Puis on dirait que ça prend des trucs souffrants pour se rendre compte à quel point on a du bonheur. Fait que c'est pas loin l'un de l'autre. Puis on devrait pas souffrir pour se rappeler.
Non.
On devrait pas, mais il y a comme des « wake-up calls », hein.
Oui. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu tentes de lui intégrer des billets, le B-I-A-I-S, à l'intérieur de lui? C'est-à-dire, peut-être que tu ne le vois pas le bonheur, mais c'est parce que tu n'es pas attentif. Regarde les petits signaux qu'il peut avoir. Tu sais, le soleil, tu l'apprécies-tu encore quand il se lève puis quand il est présent dans le ciel? Les gens qui vont te regarder dans les yeux, qui vont te souhaiter une belle journée. La caissière qui dit « Bonjour, monsieur, comment allez-vous? » Est-ce que tu lui réponds? Est-ce que tu intègres ces billets-là? Parce que je lis un peu en psychologie, puis il y a des gens qui sont incapables de détecter le malheur ou le bonheur. Puis ce qu'on donnait comme truc, c'est justement de s'intégrer soi-même ces billets-là. Quand je vais croiser le bonheur, je vais être attentif. Puis quand je vais croiser le bonheur, je vais le savoir c'est quoi. Et là, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a des enfants qui jouent. Alors que tu serais passé devant eux sur le trottoir puis tu aurais fait ton chemin. Là, tu vas regarder, tu vas dire « Tabarouette, c'est ça la beauté de la vie, des enfants qui jouent. » Puis on dirait que peu à peu, quand tu intègres ce billet-là en toi, puis tu es malheureux, puis tu t'aperçois que crime, il y a du bonheur, ça fait du bien à l'âme.
Et pour être capable de rencontrer ces petits bonheurs, faut-tu ralentir un peu aussi?
Oui, ça va vite.
Ah, ça va vite. Donc, tu peux les voir, mais tu n'as pas le temps de les regarder. C'est comme si tout allait tellement vite, puis que ce soit... Un coucher de soleil, un lever. As-tu remarqué comment notre façon d'être contemplatif change quand tu es en vacances?
En vacances, t'as raison, t'as tellement raison.
C'est comme si tout d'un coup, tu devenais quelqu'un de différent.
Ouais.
Tu te mets à baiser alors que tu couches plus avec personne. Non, mais tu te mets à...
Tu te mets à baiser alors que tu couches plus avec personne. C'est ce que t'as dit.
Oui. Non, mais il y en a qui vont en voyage pour ça.
Ah, OK, c'est que ça. OK, oui.
Okay. Bon, j'aurais pas dû prendre ce terrain-là. Paul revient. J'apprends pas de mes erreurs après toutes ces années avec à tes côtés.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que tu te mets à savourer ce que tu n'as. Tu ne te donnes pas la permission de voir parce que tu dois aller chercher les enfants, parce que tu cours, puis que tu es toujours comme en survie. Fait que le soleil qui se couche, là. Fuck you, là. Moi, t'es en train de faire la vaisselle, les lunchs, puis les... Fait qu'il y a ça aussi.
Tu t'en rends pas compte. T'as raison. C'est vrai que les vacances nous amènent à être peut-être un peu plus conscients de ce qui se passe autour de nous. J'avais cette discussion-là avec une amie au mois de décembre. Elle disait qu'elle aimait juste faire des voyages de découverte. Aller découvrir des pays, faire le tour des musées, découvrir de nouvelles cultures et tout ça. Puis moi, je trouvais ça franchement intéressant. Puis je pense que pour notre culture générale, Paul, c'est important de le faire. Mais être dans un endroit 7 jours, emprisonné dans un resort, là, t'as pas le choix de te déposer. Puis t'as pas le choix de regarder chaque seconde qui passe. Puis le lever de soleil, hey, ça serait peut-être intéressant d'aller le voir. Et tabarouette, c'est ça un lever de soleil. Mais c'est donc bien beau. C'est la base même de la nature, c'est le lever du soleil. Puis fait 10 ans que t'as pas vu un lever de soleil. Ben, buddy, lève-toi, il est 5 heures le matin, c'est le temps, le soleil lève dans 10 minutes. Pas besoin de prendre ta douche, amène ton café, tu vas regarder ça avec ta blonde, tu vas te souvenir de ce moment-là toute ta vie.
C'est des résolutions qu'on ne garde pas. Hein. Quand tu reviens de voyage ou quand tu vis quelque chose, tu te dis, hey, là, ma vie va changer. Je vais-tu prendre le temps? Puis c'est un peu à ça que sert notre conversation d'aujourd'hui aussi. C'est comme des wake-up calls en se disant, faut-tu attendre d'être malade? Faut-tu attendre d'être en vacances? Faut-tu attendre? On est-tu trop longtemps dans cette maudite salle d'attente-là? Puis on passe notre temps à courir après quelque chose. Puis ça, c'est l'histoire des petites fraises.
L'histoire des petites fraises.
L'histoire des petites fraises, tu sais. C'est celui qui va aux fraises chaque année puis qui cherche l'espèce de fraise parfaite dans le jardin parfait, tu comprends? Puis il n'y en a jamais assez pour faire des tartes, de la confiture, puis il meurt de faim. Puis il se dit, c'est la dernière année, moi, je ne vois plus aux fraises, ça ne donne rien. Mais le fou du village a décidé de le suivre cette année-là, tu sais. Et lui, ben il n'a pas le sentiment d'urgence. Il est comme dans le moment présent. Puis, fait qu'il suit l'autre pour savoir où il s'en va. Puis, ben il faut traverser un champ de vaches, un champ pour aller dans le jardin trop parfait. Puis le fou du village, lui, s'arrête dans le jardin, dans le champ de vaches. Et il s'aperçoit qu'il y a plein de bouses de vaches et qu'à travers ces bouses de vaches-là, qui deviennent des engrais, il y a des fraises des champs magnifiques, qui sont toutes en forme de cœur, qui sont sucrées, qui sont toutes parfaites. Puis lui, il remplit son panier, puis il est capable de faire des tartes puis de la confiture, tu sais. Fait qu'à côté des bouses de vaches, bien, il pousse peut-être les petites fraises des champs, là, tu sais, qui sont immensément plus savoureuses, plus copieuse, plus nourrissante dans la satisfaction. Fait que, est-ce qu'on cherche dans notre vie les grosses fraises parfaites, puis que finalement, 2-3 fois par année, on a les événements qu'on aime, puis on se dit c'est ça le bonheur. Mais peut-être que si on posait nos yeux autour des bouses de vache, maudit, j'étais curieux de me lever à matin, maudit que c'est plate, ça, et je suis tannée, que, ben peut-être qu'on finirait par se dire, ouais, mais je me lève, puis je respire, puis moi, peut-être que je suis encore capable d'aller avec mes deux jambes, alors qu'il y en a d'autres qui sont en chimio puis qui sont emprisonnés. Mmh. Puis c'est pas de se comparer aux autres, c'est juste de se dire, ben peut-être je les vois plus. Tu sais, le bonheur, c'est comme des lunettes, c'est sur le nez, puis tu les cherches. Ça t'est déjà arrivé de chercher. Des fois, je cherche mon cellulaire, je l'ai dans la main, je me dis, voyons, je commence à souffrir d'Alzheimer. Mais non, c'est parce qu'on finit par s'habituer, puis c'est pas parce qu'on s'habitue que c'est correct.
Pourquoi chez l'être humain, ça prend toujours une tragédie? Je parlais hier avec un gars, qui, il y a de ça quelques jours, était avec sa blonde, puis il était aux Émirats arabes.
Oui.
Puis là, ben ça bombarde dans le ciel. Puis là, il était à Dubaï. Ou juste à côté de Dubaï, là, c'est Doha. Et il dit, t'as peu, là, celle-là, ça explose dans le ciel, faut que je revienne au Canada. Puis j'ai dit, tu sais, la première chose auquel tu as pensé là, quand tu es revenu ici, c'est quoi? C'est-tu de revoir tes priorités? Ouais. Il a dit clairement oui.
Oui.
Il y en a d'autres que c'est une maladie où ils pensaient qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Un cancer, exemple. Puis là, un cancer, c'est... Moi, quand j'entends cancer, je suis en train de paniquer. Je me dis, c'est sûr, je vais mourir. Ben lui, il a passé par toutes les phases de son cancer et a guéri. Puis aujourd'hui, sa vie a changé du tout au tout. Il est plus positif. Pourquoi ça prend tout le temps des moments épouvantable comme ça pour se rendre compte que crime, la vie est importante. Le décès de quelqu'un.
Ben oui.
Ton frère décède, dit tabarouette, faut que je vive pour deux maintenant. Je ne l'appréciais pas, la vie. Là, lui, il est mort, on ne peut plus l'apprécier. Je vais vivre pour lui.
Ben, sais-tu pourquoi, Yannick?
Pourquoi?
Parce que on est tous dans un aéroport. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va voir le décollage de notre avion définitif, hein, pour le grand voyage. Mais le jour où il arrive des événements dans ta vie, tu prends conscience que tu es dans l'aéroport. Tu n'y penses pas tous les jours parce qu'on virerait fou, mais ces moments-là, tu fais « Oups, je suis dans l'aéroport, je ne sais pas quand est-ce que mon avion va partir. » Aussi bien prendre conscience que la vie, c'est ici et maintenant. Fait que quand il y a des wake-up calls, c'est comme si on devenait extra lucide. On n'y pense pas tous les jours, mais ces moments-là, on se dit « Oups, la vie est fragile. Les gens que j'aime sont fragiles. Il y a à n'importe quel moment la possibilité de perdre ce que j'ai. » Mais tu n'y penses pas tous les jours. Puis moi, dans ma consultation, j'ai même des gens qui disent merci au cancer. Tu vas me dire, Paul, qu'est-ce que c'est ça? Ça a-tu atteint le cerveau? Non. Merci au cancer parce qu'il m'a permis de vivre autrement. Il m'a permis de revenir à l'essentiel.
Ouais.
Parce que l'essentiel, c'est de répondre à ses besoins. C'est être capable de se dire, moi, comme humain, j'ai besoin de quoi pour être heureux? Parce que le bonheur, là, il est bien différent d'une personne à l'autre. Oui. C'est de répondre à tes besoins, au fond.
Puis la maladie t'amène tellement d'insécurité qu'à un moment donné, on dirait que quand tu reviens et tu guéris, t'as presque plus peur de rien. Hein. T'as guéri, fait que tu peux changer de carrière. tu peux faire finalement quelque chose que tu aimes, que tu aurais voulu faire depuis des années, mais comme la vie est embarquée, les c'était payant, ben là, tu dis « OK, c'est beau, je vais faire ça ». Mais quand tu reviens de ça, de ce que je comprends, c'est que les gens peuvent se permettre maintenant de choisir qui seront leurs vrais amis, sur qui ils vont se concentrer. Mes priorités, c'était quoi? Mes priorités, c'était mes enfants. J'aimais bien ça le dire, c'était que mes priorités, c'était mes enfants. Mais concrètement, sur le territoire, je le faisais pas tant. Je ne mettais pas mes priorités tant sur mes enfants. Là, je vais le faire. Fait que je comprends dans le sens ce que tu nous mentionnes, c'est-à-dire il y a des gens qui disent « Merci à mon cancer parce qu'il a rétabli l'ordre que je cherchais depuis tellement longtemps dans ma vie. »
La flore. La flore émotive.
La flore émotive. Tu appelles ça de même.
Ben, on parle de la flore intestinale. Je pense que on est tous les jours conscient, mais on ne l'applique pas.
Ouais.
On est conscient, cette discussion-là ne réveillera pas tant d'âmes égarées, là, parce que on est, c'est pas de la nouveauté. Mais il s'agit d'une lecture, il s'agit d'une écoute, il s'agit pour que on puisse en prendre conscience. T'sais. Puis après ça, on l'oublie 10 minutes plus tard. Ouais. Fait que comment on fait pour installer cette capacité à faire de notre journée une vie? Moi, je me dis tout le temps, chaque journée de ma vie, c'est comme une vie. C'est, il y a un début, un milieu, une fin. Puis ça recommence le lendemain. Fait que j'essaye de faire le maximum dans cette journée-là, pour pas gaspiller rien, pour que ça soit utile. Moi, je suis beaucoup dans le recyclage humanitaire, c'est-à-dire recycler ce que je vis avec les humains, ce que je vis dans ma vie, pour que chaque jour, je me couche en me disant, j'ai appris quelque chose, j'ai été assez humble pour remarquer que j'avais des choses à transformer. Arrêtez de culpabiliser les autres et de se dire, moi, je suis responsable de ma vie. Comment je fais pour être un demain meilleur dans ma propre vie, malgré ce qui arrive, là, t'sais? Fait que, puis, des fois, je l'échappe. Alors, je suis pas bonne, des fois, mais j'ai la chance de faire un travail qui me le rappelle chaque jour. T'sais, je m'entends le dire, c'est maudit, tu comprends? Des fois, on dit cordonnier mal chaussé, mais moi, je suis exposée tous les jours à ça. Fait que je me dis, faut que je travaille un peu là-dessus. Puis, tu sais, il y a des jours, tu as juste envie d'être en révolte. Dire, la vie, c'est de la merde. Il y a des jours, tu te lèves, tu dis, la vie, c'est rien que de la merde. Tu as envie d'être en révolte. Ben, accueille ça. Cette journée-là va servir à évacuer la révolte. Puis, on essaye de s'étourdir par toutes sortes d'affaires. Hein. La médication, l'alcool, toutes sortes d'affaires. Puis je dis pas que c'est pas cool dans la vie, là. Il y en a qui en ont besoin, etc., des médicaments. Mais ce que je veux dire, c'est on fuit. Et il y a quelque chose de très satisfaisant à ne pas fuir. Quand tu fais face à ta peur, elle se transforme en confiance. Fait que quand tu es capable de dire « j'ai peur de ce que l'autre pense », parce que c'est souvent la peur qui t'empêche d'être heureux aussi. Quand tu as peur de ce que les autres vont penser, de ce qui va arriver,
de l'inconnu. Ou de perdre tes acquis.
De perdre de tout. Bien, si la peur devient celle qui te dirige, bien, tu t'éloignes de toi, puis tu t'éloignes de ce que tu as besoin. Fait que faire face à sa peur, c'est transformer cette peur-là en confiance en soi. Est-ce que tu connais Janelle, je ne sais pas son nom.
Janelle Debouze.
Oh oui, c'est ça, je ne suis même pas capable de prononcer le... Bon, lui, tu sais qu'il y a un bras, le bras droit, là, qui ne fonctionne pas du tout.
Oui.
Il est paralysé. Tu sais ce qui est arrivé?
Non.
Non? Oh, ben, je vais te l'apprendre aujourd'hui. Je ne peux pas croire qu'après toutes ces années, je peux encore t'apprendre quelque chose.
Oh la haine, à tous les jours, tu m'apprends quelque chose.
Donc, lui, il avait à peu près 14 ans. Ouais. Il allait prendre son autobus. Et comme un grand adolescent qui court et qui ne regarde pas autour et qui a peur de manquer son autobus, il a traversé la traque de chemin de fer. Tu vas me dire, comment c'est possible qu'il n'ait pas vu le train? Bien, le train, il l'a frôlé, parce que s'il l'avait frappé complètement, il ne serait plus là. Il a perdu connaissance et quand il s'était réveillé à 14 ans, lui, c'est un droitier, on lui a expliqué que plus jamais dans sa vie, il pourrait utiliser son côté gauche, son bras gauche au complet. Et sais-tu, c'est quoi la première chose qu'il a dit? « Donnez-moi un crayon que j'apprenne à écrire de la main gauche. » Et c'est vrai, là.
Ah oui?
Oui. Ça, là, c'est souvent un exemple que j'utilise en conférence ou que je m'auto-utilise pour me dire « Est-ce que les difficultés peuvent devenir des opportunités? » C'est pas tout de suite, là. Des fois, sur le coup, t'as juste envie de maudire la vie. Mais si t'avais envie d'utiliser les difficultés pour les transformer en opportunités, C'est ça qui fait qu'on finit par grandir puis qu'on s'approche de plus en plus du bien-être, là, tu sais. Puis ça ne l'a pas arrêté. Ça l'a probablement upgradé vers des réussites qu'il n'aurait pas eues. Il serait peut-être pas humoriste, il serait peut-être pas... Mm-hmm. Tu sais, fait que ça rejoint ce que tu dis. Des fois, ce qui nous arrive de pire, une fois que tu as passé l'étape de l'accueillir, ouais, puis tu as le droit d'être en révolte, ben je fais quoi avec ça maintenant?
J'ai écouté un podcast en fin de semaine. Le titre des podcasts, c'est « Légende », pas de « E ». Puis c'est un animateur français qui anime ça. Puis là, il y a un titre qui me faisait un peu halluciner sur ses vidéos. C'était, de mémoire, ça parlait de Dieu par rapport à la science.
OK.
Moi, j'ai pas de croyance, OK?
Oui.
Je veux savoir, tu sais.
Oui.
Et là, c'est des scientifiques qui se sont penchés sur l'existence d'un Dieu, entre guillemets. Je me suis dit, je vais toujours bien écouter ça. Puis il y avait beaucoup de philosophie à l'intérieur de ce podcast-là que j'ai trouvé franchement intéressant. C'est « Légende, pas de E ». D'aller voir, là, c'est sur YouTube, tous les titres sont là, puis c'est Dieu vu par des scientifiques, de mémoire. Et là-dedans, il parlait, bon, de la création de l'univers.
Oui.
On ne sait pas comment l'univers s'est créé. On dit qu'il y a un Big Bang, mais est-ce qu'il existait quelque chose avant? Dans la conception de l'être humain, avec notre petit cerveau, on dit toute chose a commencé, puis toute chose a une fin. Mais dans l'univers, on ne sait pas si cette loi-là existe.
Oui.
Mais pour nous autres, ça a commencé quelque part, ça a fini quelque part, mais l'univers est en expansion. Et ce qu'il expliquait, c'est l'univers qui est en expansion, c'est peut-être une petite bulle dans un bain où il y a des milliards de bulles.
Peut-être.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
La vie, c'est ce qu'il mentionnait, le scientifique, c'est un scientifique qui disait ça. Puis j'ai trouvé ça hallucinant parce que j'étais chez nous et je dis « Waouh, quelle image! » Il dit « La vie est assez particulière. C'est comme si tu étais dans une gare de train où tu ignores où t'es. Et là, tout d'un coup, il y a un train qui passe, c'est bondé de gens. Tu ne sais pas où le train s'en va, mais t'embarques dans ce train-là bondé de gens que tu ne connais pas, que tu vas rencontrer pendant quelques années, que tu vas apprendre à connaître, et à un moment donné, tu vas sortir du train à une gare d'autobus, puis tu ne saurais pas plus où t'es. » Et là, j'entendais ça, c'est wow, c'est vrai. Parce qu'on ne sait pas d'où on vient, mais on embarque dans la vie, qui est le train, on connaît des gens, puis après ça, on s'en va. Et il mentionnait que... on vit souvent pour les autres, alors qu'on devrait peut-être vivre pour nous au jour le jour. Plutôt que de dire « Hey, je vais devoir faire ma vie pour m'ajuster à ce que tout le monde peut penser puis que tout le monde soit content », vivons pour nous-mêmes parce que dans 200 ans, notre histoire va être éradiquée puis il n'y a plus personne qui va se souvenir de nous. Fait que vivez, bon Dieu, tu sais. Ça a vraiment du sens, mais tu sais, le podcast est plus long que ça. Je pense qu'il dure 2 heures totales, là. Mais ce petit segment-là où il nous fait un parallèle entre la gare de train, tu arrives dans une gare de train, tu ne sais pas comment tu es arrivé à cette gare de train-là, tu ne sais pas tu es dans quel pays, il y a un train qui passe, tu ne sais pas où il s'en va le train, tu embarques dans le train, tu rencontres les gens, tu as du plaisir, après ça tu débarques du train, puis tu es dans une autre gare de train, puis là tu ne sais plus où tu t'en vas parce qu'on ne sait pas ce qui existe après.
Exact.
C'est fou, hein? Mais j'ai aimé ça, cette façon d'exprimer ce qu'était la vie pour lui. Puis cessons de vivre pour les autres. Puis cessons d'être malheureux aussi pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux pour les autres, en couple, entre autres. Hey, je ne peux pas y faire ça, là. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Si je le laisse, il ne sera même plus capable de s'occuper de lui-même. Ou si je la laisse, elle ne sera plus capable de s'occuper. Attendez un peu, là. Vous n'avez pas le droit de voler du temps à des gens, là. Si vous êtes plus heureux avec ces gens-là, dites-leur.
Hey, ouais. C'est simple. Écoute, premièrement, ce que tu viens de me dire, là, c'est tellement grandiose, là. Mais tellement anxiogène.
Mais c'est ça, la vie. On ne sait pas d'où on vient.
Mais je
on
sais.
On sait pas où on s'en va.
Mais c'est parce que moi, je traite de l'anxiété quand même. Là. Je veux juste te dire, je l'utiliserai peut-être pas.
Je viens tout détruire.
Non, mais c'est très anxiogène.
Ben, pas tant.
Ben, pour quelqu'un qui fait de l'anxiété existentielle, c'est très anxiogène.
Parce qu'on arrive de quelque part, puis on s'en va quelque part.
Ouais, mais tu sais, l'inconnu, là.
Ouais.
Tu es d'accord avec moi, l'inconnu est une variable extrêmement anxiogène pour beaucoup de gens.
Mais l'inconnu existe à partir du moment où tu es conscient.
Oui,
mais c'est... À partir du moment où tu n'es plus conscient, à partir du moment où tu descends de la gare de train, t'es plus conscient, là. Tu vas rembarquer, peut-être. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Tu vas peut-être rembarquer dans un
autre. Mais c'est ce « c'est pas-là » qui est très anxiogène. D'ailleurs, selon les statistiques, les gens qui sont croyants, là, qui croient en un Dieu, appelle-les comme tu voudras, là, OK? Ceux qui croient, des vrais croyants, là, OK? Ils vivent beaucoup mieux leur vie parce qu'ils sont dans l'espoir de connaître la gare et de connaître ce qui va leur arriver
après.
Ils
ne sauront jamais.
Oui, mais quand t'en es convaincu, là...
Ah oui.
Au niveau des statistiques, les gens qui en sont convaincus,
ouais,
c'est leur réalité à eux.
C'est pour ça que les personnes âgées se revirent beaucoup vers la religion, vers la fin de leur vie?
C'est pas rare de voir des gens qui deviennent croyants en fin de vie et l'inverse. Écoute, une histoire, une religieuse cloîtrée, croyante, là, avouer sa vie. Là. Mais en dernier, elle n'était plus cloîtrée parce qu'ils l'ont sortie pour aller dans un truc de... Tu sais, il y a des bâtisses pour les religieuses qui sont malades, là, ouais, qu'on va s'occuper. Donc, elle a été plus cloîtrée. Elle a passé quand même plusieurs mois dans cette bâtisse-là. C'est la cousine d'une amie. Une tante, excuse, d'une amie. Et elle a pu aller la voir, tout ça. Elle était en fin de vie. Et à la fin, là, il reste quelques jours à vivre, là. Hey, elle a été cloîtrée, là. M'excuse, là. C'est un rapport très, très proche avec Dieu. Elle a dit à sa nièce... C'est de la foutaise, la religion. Il n'y a rien l'autre bord. Et elle, ça a fait l'inverse. Elle a vécu toute sa vie en croyant.
Ouais.
Et comme elle est sur le bord de mourir, elle se met dans le doute que ça n'existe pas.
Tabarouette, OK.
C'est l'inverse. Puis on l'entend rarement, hein, ça. Ouais. Ça m'a tellement frappée. Je me suis dit, écoute, on entend souvent qu'en fin de vie, il y a comme le besoin de croire que tu vas aller retrouver ceux que tu aimais, par exemple. Hein? Tu vas croire que... On t'attend à quelque part, qu'on t'attend à la gare. Donc, je reprends ton image. Ce qui est le plus flippant, c'est de se retrouver toute seule à cette gare-là. Alors que les gens, ce qu'ils veulent, souvent en fin de vie, c'est « je veux pas être seule ». Puis tu remarqueras, le discours, c'est beaucoup « je vais revoir mon père, je vais revoir mon monde, je vais... » Tu sais, j'ai hâte de les retrouver. Ben, tu sais, hâte, peut-être que ça dépend des gens. Mais c'est beaucoup ça. Donc, ne pas être seule.
Fait que c'est l'espoir.
L'espoir.
OK. J'avais rencontré une sœur cloîtrée, hein, tu savais, je te l'avais dit.
Non.
J'avais été passer une fin de semaine. C'est un défi qu'on m'avait lancé. C'est mon chum Jean qui m'avait lancé ce défi-là. Il m'a dit, va passer 3 jours à l'abbaye Saint-Benoît de...
Du lac.
Du lac.
Oui, oui.
Et...
pas loin de Magog.
Exact. Et c'est de toute beauté, là, puis ça coûte vraiment pas cher. C'est un service d'hôtellerie.
Ils ont du bon fromage.
Il y a des frères ou des curés qui sont là aussi, qui chantent à tous les matins à l'église et tout ça. C'est de toute beauté, l'environnement. Puis adjacent, il y a un immeuble qui c'est des sœurs cloîtrées. Puis quand tu vas manger le matin, le midi ou le soir, ben les sœurs cloîtrées sont là, ah, puis ils sont silencieuses. Alors, ils parlent pas. Puis il y en a une qui m'a fait un beau sourire. Puis là, je m'étais posé comme question.
Tu pognes même avec les cloîtrées.
Ah, ben ça, c'est... Écoute, hein, c'est ça. D'après moi, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un homme. Mais j'avais trouvé ça particulier. Mais les autres, c'est leur façon de vivre. Ils dédient leur vie à quelqu'un dans l'espoir qu'à un moment donné, ils sauvent peut-être l'humanité ou que ça leur revienne dans les poches. Je ne sais pas, mais... C'est une façon de vivre que je ne connaissais pas. Puis j'avais passé 3 jours là, j'avais trouvé ça franchement intéressant, très formateur aussi. Là.
Oui.
Pas parler à personne, faire juste de la lecture, se reposer, être dans un endroit aussi merveilleux, manger comme un roi. J'avais vraiment trippé pendant ces 3 jours-là. Moi, je le conseille à tout le monde parce que c'est un retour sur soi-même pendant 3 jours. Là. Tu penses à rien d'autre que toi-même.
Exact.
Fait que ça peut être terrorisant aussi. Aujourd'hui, le sujet avec Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, spécialiste en éducation, comprendre ses relations pour mieux aimer. Mm. Pourquoi as-tu choisi ce thème?
Pour toi.
Oh boy, OK.
Ben pour toi. Parce que... pour toi, parce que tu m'influences, là. Ça fait des années qu'on fait de la radio ensemble.
Oui.
Ça fait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Et ta grande amour des humains, ta façon très particulière d'aimer les humains, t'es un gars loyal, t'es un gars... Tu sais, puis t'es toujours en train de t'interroger sur la meilleure façon. Puis tu sais, t'aimes tes enfants profondément, t'es une des rares personnes qui aime la mère des enfants à ce point-là, aimer à ta façon, ouais, tu sais. T'as une façon très particulière d'aimer, ça m'a inspiré.
Ouais. Je le dis souvent, ça. J'ai pas fait grand-chose de bon dans la vie, mais pour choisir la mère de mes enfants avec qui je suis plus aujourd'hui, j'ai été un as. Puis je dis souvent aussi qu'elle est merveilleuse. Là.
Mais c'est ça. Pour moi, t'es une personne particulière qui sait aimer d'une façon particulière. Donc, m'as inspiré.
Je suis un fidèle.
T'es un loyal.
Un loyal, un fidèle.
Ouais. Mais t'es un rebelle. Tu laisses pas rentrer n'importe qui dans ton cercle.
Mais c'est important, sinon les gens qui sont dans ton cercle ne se sentent pas privilégiés.
C'est une très bonne réponse, effectivement.
Bon, j'ai lu ça dans un livre quelque part, ça vient pas de moi. Là. Mais moi, je vais juste le répéter, j'ai de l'air intelligent.
Oui, mais au moins tu l'accueilles et tu l'utilises.
Ah, ben, c'est ça, je vais me le donner.
Mais tu sais...
Mais c'est gentil de me dire ça.
Oui, mais il y a ça, parce que souvent, quand je vais rencontrer les gens pour la radio ou peu importe, je commence par réfléchir à qui je vais parler, parce que c'est toi qui vas rendre ce moment-là un moment extraordinaire pour les auditeurs. Donc, c'est la personne qui me guide. Fait que je me dis tout le temps, il faut que ce soit un sujet qui va être en lien avec ce que je pense de cette personne-là.
J'aime ça. Donc, comprendre ses relations pour mieux aimer.
Ouais. C'est comme une biopsie. C'est comme si aujourd'hui, on prélevait un petit échantillon de nos vies. Puis ce que je vous propose, les gens qui sont en train d'écouter, c'est prenez des relations que vous avez dans votre vie. Puis, avant de commencer à écouter, fixez-vous sur ces relations-là, parce que je crois que aimer, c'est difficile au départ, difficile en cours de route, mais c'est tellement glorifiant, tu sais. Puis c'est comprendre. Moi, je pense que dans la vie, quand tu comprends, t'arrêtes de juger. Quand tu comprends, t'es capable de t'adapter. Parce que ce qui fait qu'on va réussir une relation, ça peut être de couple, si tu veux qu'on parle de celle-là, ou peu importe, c'est qu'on comprend et qu'on s'adapte. Tu sais qu'il y a trois façons de s'adapter au niveau relationnel. Tu peux le faire comme la carotte, tu peux le faire comme l'œuf et tu peux le faire comme le café.
Commençons par la carotte.
Au fond, une relation, hein, c'est comme un grand chaudron d'eau bouillante. Ton mécanisme d'adaptation peut être comme la carotte. Quand tu mets la carotte dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui arrive?
Ben, elle ramollit avec le temps.
Elle vient molle. Il y en a qui sont des mous. Mon grand-père est de même, mon père est de même, moi je suis de même. Tu sais, donc, c'est de même, m'investis pas. Tu sais, c'est, relationnellement, c'est des mous, c'est des gens qui tu sais. Mais il y en a qui sont comme l'œuf. Quand tu mets l'œuf dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui arrive?
L'intérieur ramollit, mais l'extérieur est tout aussi dur.
Oui. Bon, là, c'est une réponse qui est complexe. On va dire l'œuf vient dur. Non, mais c'est pas, ça marchera pas avec mon œuf. Tu viens de me foutre. Bon. OK, l'œuf vient dur, point final.
Oui, okay. Voilà, c'est tout.
T'es trop philosophe. Bon, bien, il y en a qui ont une adaptation très rigide, donc qui ont de la difficulté à accepter la différence de l'autre, qui ont de la difficulté à comprendre l'autre, donc ils vont le juger. Et tu as ceux qui vont évoluer au niveau des relations et qui sont comme le café. Le café, quand tu le mélanges dans l'eau bouillante, il devient une nouvelle matière.
Oui.
Il se laisse transformer. Moi, je dis tout le temps, je me laisse transformer par les humains. Ça ne veut pas dire de perdre l'essence de ce que tu es, mais s'adapter, c'est aider le relationnel à s'épanouir. Tu vois?
Oui.
Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler du café avec vous autres. Comment on fait pour s'adapter à l'autre tout en ne perdant pas ce qu'on est fondamentalement?
Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles qui nous écoutent. Et donner leur confiance, que ce soit pour avoir une conjointe ou un conjoint, c'est extrêmement difficile. Se donner en amitié pour eux, c'est extrêmement difficile parce qu'à partir du moment où ces gens-là peuvent aimer, ils ont l'impression qu'ils donnent une arme de destruction massive à cette personne-là parce que cette personne-là peut utiliser cette arme-là puis détruire complètement le cœur de la personne. Mm. Il y en a qui n'ont jamais vécu l'expérience, qui sont un peu hésitants à donner leur cœur. Puis il y en a d'autres qui l'ont vécu, l'expérience, qui ont été trahis. Puis là, ils aiment bien la chaleur humaine. Ils voudraient peut-être revenir parmi les humains, mais ça a tellement fait mal qu'ils ont de la misère à faire confiance. Mm. Tu sais, les gens qui ont été abandonnés par leurs parents, des gens qui ont été adoptés, qui vont tout le temps rester avec cette peur-là d'être encore une fois abandonnés. T'as aimé quelqu'un pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, et pouf, tout d'un coup, cette personne-là devient un inconnu ou une inconnue pour toi. Tu disais un peu, là, c'est tout ce qu'on a bâti ensemble, ça vaut plus rien. Donc, refaire confiance à quelqu'un d'autre, Paul, c'est complètement fou.
C'est vrai. Tu as dit quelque chose d'important. La façon dont on a été aimé dans l'enfance va influencer notre façon d'aimer.
Ben, c'est clair.
Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de porter ça toute notre vie, mais ça va nous influencer. Et le lien de confiance vient avant l'amour, pour moi. Maslow a dit, dans la pyramide des besoins, il y a les besoins de base, manger, se vêtir, etc. Le deuxième, c'est la sécurité qui vient avant l'amour, qui est le troisième step. Donc, la sécurité, c'est se sentir en sécurité avec quelqu'un, veut dire bâtir un lien de confiance. Et c'est vrai pour toutes les relations, que ce soit une relation d'aide, une relation d'amour, tout ça. Puis, quand tu rencontres quelqu'un, souvent, tu vas faire des tests, hein? Des tests pour voir si tu peux y faire confiance. Est-ce que tu peux lui confier quelque chose et va le conserver? Est-ce que...
Mais c'est pas machiavélique, ça. Moi, j'ai jamais fait de test là, pour savoir si une personne était de confiance. Je me fiais sur ce qui pouvait m'être apporté. Fait que c'était peut-être un peu machiavélique, mais là, c'est une stratégie que je donne. Utilisez pas ça contre d'autres personnes, OK? Mais si tu veux savoir si quelqu'un est de confiance, donne-y une pièce de ton morceau de casse-tête. Puis là, ben, il y a une autre personne qui est dans ta vie, tu lui donnes une pièce de ton morceau de casse-tête. Puis à un moment donné, il y a une pièce de ton morceau de casse-tête qui va te revenir d'une autre personne, puis tu vas savoir qui t'a trahi.
Tu l'as-tu essayé?
Je l'ai essayé en entreprise, puis ça a bien fonctionné. J'ai réussi à savoir qui étaient les gens de confiance, puis qui étaient les gens qui étaient pas nécessairement de confiance, ou des gens qui prenaient peut-être les amitiés à la légère.
Donc, tu l'as testé.
Ben, je l'ai testé, mais je trouve ça machiavélique parce que ça fonctionne tout le temps. On a un casse-tête, on donne un morceau. C'est dans The Art of War, en passant, Sun Tzu, qu'on donne cette stratégie-là. C'est un livre qui est vraiment pertinent à lire. Mais si vous l'utilisez, ça se peut que vous perdiez confiance en l'humanité. Mais bon, fait qu'on donne, je sais pas moi, j'ai un secret. Je ne suis plus avec la mère de mes enfants. Puis j'ai deux amis à job. À un, je dis, je l'ai trompé. Et à l'autre, je dis...
Elle m'a trompé.
Elle m'a trahi. Ben, deux semaines plus tard, il y a quelqu'un qui me dit, « Hey, t'es plus avec ta blonde? Elle t'a trahi? » Pouf! Tu sais qui t'a trahi.
Ben, on le fait consciemment ou inconsciemment, hein? Mais c'est clair qu'on est observateur de l'autre. Puis, il y a des gens qui ont été plus blessés. Tu sais, quand t'arrives en amour, là, prenons en amour ou en amitié, mais prenons en amour, on arrive chacun avec nos baluchons.
Ouais.
Puis, as-tu remarqué que plus tu vieillis, plus c'est difficile de rencontrer quelqu'un, ben, pour toutes sortes de raisons, mais parce que tu ne donnes pas ta confiance si facilement.
Ouais, puis je suis plus lette, là.
Bon, là, tu veux que je te dise t'es cute? Bon. Ben, on est peut-être physiquement différent, mais ouais, on peut être plus attractif parce qu'on sait plus qui on est. Ouais. On sait plus ce qu'on veut. Ouais.
Les gars, on a cette chance-là. On a des tempes là, qui deviennent un peu plus blanches. Là, puis ça a de l'air, ça plaît aux femmes. C'est correct.
Non, mais c'est vrai que c'est plus difficile pour une femme de vieillir.
Ah oui?
Oui.
Moi, Monica Bellucci, elle approche 60 ans.
Ben non, trouve, mais prends pas cet exemple.
C'est encore la femme de ma vie.
Là. Ben oui, mais on va tous se sentir des cacasses. Tu prends elle, là. Donne-nous une chance, Seigneur. Non, mais je pense que le regard est plus sévère pour les femmes qui vieillissent que pour les hommes. Oui, oui. Un petit chauve bedonnant, il est cute pareil. Tu sais, les madames, là, il faut faire plus d'efforts.
OK.
Plus sévère, je pense.
Mais je trouve, parce que quand j'étais jeune, ma grand-mère n'a jamais vieilli. Là. Ma grand-mère, quand j'étais jeune, elle devait avoir 45 ans, puis elle avait de l'air vraiment d'une personne âgée. Aujourd'hui, les femmes de 50, 60 ans sont très bien conservées, là, comparativement aux années 80, exemple, où... Il n'y avait pas le maquillage tel qu'il est aujourd'hui. Les femmes ne faisaient pas nécessairement d'exercice et tout ça. Ça pouvait peut-être se laisser aller. Les familles étaient plus grosses. Fait que, à un moment donné, devait être
après 21 enfants, peut-être que...
C'est ça. Mais aujourd'hui, une femme de 60 ans, c'est pas rare, moi, que je trouve ça magnifique.
Ben oui. Ben, c'est plus d'efforts quand même. Le regard social est plus sévère.
Ouais. Donc, plus on vieillit, plus, selon toi, c'est difficile de rencontrer des gens.
Parce que notre baluchon est de plus en plus plein, puis on est peut-être moins prêt à faire des compromis. Tu sais, il y a des choses sur lesquelles tu ne veux plus faire de compromis. Puis tu arrives avec une autre personne qui a aussi son baluchon encore bien plein de regrets, de doutes, d'expériences qu'ils ont vécues, qui les ont consolidées, mais qu'ils ont aussi brisées dans certaines situations. Puis des fois, c'est des bris de confiance. Fait que, tu sais, si tu arrives d'une relation où tu as été piégé par l'adultère, là, tu le voyais pas venir, ben ça se peut qu'effectivement, tu aies de la misère à t'engager, ben parce que tu portes ça dans ton baluchon, tu comprends? Puis, se reconstruire, c'est prendre la chance d'avoir encore possibilité d'être trahi. Parce que à partir du moment où tu es en relation, tu prends une chance.
Mmh.
Tu sais, des fois, les gens disent, Paul, tu peux-tu me jurer que... C'est comme si tu me disais, Paul, promets-moi que j'aurai jamais de cancer. Je ne peux pas te promettre ça,
non,
Yannick.
Non, ça marche pas comme ça.
Tu peux faire des conditions gagnantes,
ouais, pour...
mais je ne peux pas te le promettre. Donc, quelqu'un qui rentre en relation, c'est comme s'il disait, promets-nous qu'on ne sera jamais blessé, promets-nous qu'il n'arrivera jamais rien. On ne peut pas, mais on prend une chance d'être heureux en couple. On prend une chance d'être heureux, mais on prend une chance aussi. Vivre, c'est prendre une chance. Mais prendre une chance d'être heureux aussi. Tu sais.
Si tu ne fais rien, tu ne vivras rien. Tandis que si
c'est ça,
tu laisses ton cœur aller 5 fois, ça se peut qu'une fois, ça fonctionne, puis que tu sois heureuse. Le danger, c'est le fameux biais où tout devient noir. Tu sais, quand tu t'es fait trahir une fois, deux fois, tu disais, t'as peu, plus jamais 3 fois, je vais rester tout seul jusqu'à la fin de mes jours, je suis écœuré, je suis plus capable. Les gars qui m'approchent, c'est tous des colons. Tu sais, ça, c'est des gens qui doivent rencontrer des gens comme toi pour tenter de revoir le soleil à un moment donné.
Puis comprendre les patterns. Hein, parce que quand les choses reviennent, pareil, il y a peut-être un pattern à comprendre.
Donc, ça viendrait de nous?
Ça peut venir d'un paquet de choses. Mais la responsabilité de changer le pattern vient de toi. Donc, tu peux culpabiliser l'autre. Et à partir du moment où tu culpabilises l'autre, tu ne bouges pas. Tu es comme ça à trampoline, tu sautes, tu restes à la même, okay, place.
Donc, mettons, pour essayer de comprendre, là, moi, je rencontre juste des germaines dans la vie.
Mettons.
Ça fait 20 germaines que je rencontre.
Oui.
Je rentre en couple avec eux autres. Puis à un moment donné, je m'aperçois qu'ils sont trop germaines. C'est peut-être parce que moi, je cherche ça sans le savoir.
Il y a un pattern. Il y a un pattern.
OK.
Et est-ce que c'est ce que tu cherches? Peut-être pas, mais il y a un pattern. Je te donne comme exemple. Est-ce que c'est le relationnel que tu as compris avec les femmes? Ben là, je recule loin, là. Mais est-ce que c'est le pattern que tu as compris parce que ta mère était extrêmement contrôlante? Est-ce que c'est un pattern relationnel qui t'est confortable? Pas parce qu'il est agréable, mais parce qu'il est connu. Fait que tu répètes la même chose, tu comprends? Est-ce que dans ce pattern-là, il y a un manque d'estime de ta part, un manque de confiance? Donc, tu donnes à l'autre les conditions de te contrôler parce que tu penses que tu ne vaux pas grand-chose puis que cette personne-là a de la drive et est capable. Tu sais, il y a un paquet d'explications. Puis c'est là que notre responsabilité nous est offerte de se dire, si je veux changer ma vie, il faut que je prenne conscience de ces patterns-là. Tu sais, puis... Oui, mais Paul, c'est des trous de cul. Je rencontre des trous de cul.
Ouais,
mais pourquoi tu rencontres des trous de cul? Pose-toi la question, tu sais.
Ça, c'est la noirceur que je te parlais. Des gens qui ont un biais où là, à un moment donné, tout ce qu'ils voient, tout est négatif. Toutes les filles qu'ils rencontrent sont des ci et des ça. Ou tous les gars qu'ils vont rencontrer, c'est des ci et des ça, avant même de les avoir rencontrés.
Puis, tu sais qu'une relation, c'est comme une balançoire à bascule. Tu sais, les balançoires, là, tu sais, c'est une planche de bois, là,
ouais,
puis t'es d'un bord puis de l'autre. On appelle ça une dynamique. Une dynamique doit être créée par des protagonistes. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait un abuseur, il faut qu'il y ait une victime. Tu comprends?
Oui.
Et peut-être que dans ta vie, tu as été abusé et tu portes un profil de victime. Donc, tu attires les abuseurs.
Oh, OK.
Comprends?
OK, mais comment ces gens-là peuvent faire pour sentir ça? Des gens qui sont qui ont peut-être certaines faiblesses en raison de leur expérience passée?
Ben oui, mais...
Y a-t-il des prédateurs comme ça dans notre société? Des hommes ou des femmes qui ciblent des gens qui sont blessés?
Pour créer une dynamique, ça prend les deux côtés de la balançoire, Yannick.
Mais tu me frappes.
Mais ça prend les deux côtés. Tu sais, moi, je... Ça ne veut pas dire que moi, je rencontrerai jamais d'abuseur. Mais ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis moins à risque parce que mon côté rebelle fait que je l'assommerai avant qu'il m'assomme. Tu comprends?
Oui, je comprends.
Je suis moins attirante. Fait qu'au départ, tu vas être attiré. C'est comme si tu faisais des tentatives inconscientes, puis l'autre, il répond. Tu sais, mettons, là, donne un exemple. Je rencontre quelqu'un qui me dit, moi, Paul, parce que j'ai les cheveux rouges dans la vie, là. Moi, Paul, tes cheveux rouges, tu vas me changer ça si tu veux être en couple avec moi. Non, mais c'est... OK?
Faut qu'ils se lèvent de bonne heure. Moi, ils te connaissent pas, s'ils te demandent ça.
Ça va être fuck you, mange la marde. Tu comprends? T'as le droit de pas aimer ça,
ouais,
mais ça m'appartient.
Ta personnalité. Ouais.
Oui. Donc, dès le départ, je ne deviendrai pas une candidate qui lui permet d'exploiter son côté prédateur ou son côté contrôlant ou son côté abuseur. Par contre, fais l'inverse, qu'il rencontre une personne puis il dit ça. Ah, oh, tu penses... Peut-être je pourrais, qu'est-ce que tu aimerais? Tu comprends? Tu es en train de lui dire qui peut passer à la prochaine étape, puisque cette étape-là a fonctionné. Puis ouais. La prochaine étape, ça habille-toi autrement. Puis tu comprends? Fait que tranquillement, il y a l'effet entonnoir. C'est pour ça que, relationnellement parlant, s'interroger sur nos patterns nous amène à en prendre conscience puis à être capable de poser des limites claires qui nous évitent le jour de la marmotte encore et encore. Tu sais, c'est pas si simple, mais c'est faisable.
OK. C'est intéressant. Ça fait beaucoup réfléchir, là. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans leur voiture qui doivent souffrir épouvantable à t'entendre. Parce que, tu sais, des fois, tu te rends compte que c'est peut-être toi, c'est peut-être les choix que tu fais qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas, tes relations amoureuses. Ça peut-tu fonctionner aussi avec les amitiés?
Oui.
Y a-tu des gens qui, ben, je sais pas, moi, désirent tellement être admirés, c'est, mettons, des gens narcissiques qui courent tout le temps après des gens qui vont leur donner toute cette attention-là, qui vont les nourrir?
Oui, oui, puis ça peut être généralisé. Prends quelqu'un qui ne s'aime pas et qui a besoin de l'amour des autres pour se nourrir. Donc, en amour, en amitié, au travail, comme parent, il va reproduire le même pattern. On appelle ça des « oui it », les gens qui vont dire oui à tout, qui vont tout accepter parce qu'il ne veut pas perdre les autres, parce que les autres deviennent une partie d'eux-mêmes. Fait qu'au fond, pour changer les choses, il faut trouver... C'est pour ça qu'on parle de biopsie ce matin. On va parler de comment on fait pour trouver le nerf de la guerre. Ça part d'où? Puis c'est là que notre travail se met en place. Ça part d'où? Bon, bien, si ça part de l'estime de soi, en travaillant l'estime, ça va changer les patterns. Tu comprends? Mmh. Puis quand je travaille avec des gens qui vivent de l'intimidation de tous les âges, soit dit en passant, là, il y en a qui se font intimider au travail, il y en a qui se font intimider au CHSLD. Non, mais je veux dire, c'est de tous les âges. Moi, là, je travaille toujours avec les gens qui sont intimidés en leur disant que c'est eux qui doivent changer. Pas parce que c'est eux qui ont le problème, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de changer les choses. Parce que si tu le donnes à quelqu'un d'autre, ça se peut que tu attendes longtemps, puis tu attendes toute ta vie. Puis si tu enlèves cet agresseur-là, puis que tu ne changes pas ce que tu es, tu vas en attirer un autre. Fait que travailler sur soi nous permet... Puis, écoute, j'ai travaillé... peut-être ça fait 20 ans, là. J'ai travaillé avec un jeune... sixième année secondaire 1, 2, 3, là, tu sais, dans cette période-là, plusieurs années, hey, lui, là, c'est comme dans un film, là. Il était tout seul, on y crachait dessus, il était à terre à grands coups de pied, tu sais.
Il sentait la victime.
Ah non, mais il était ostracisé, il était, écoute, il était tout petit, c'est effrayant tout ce qu'il a vécu, là, OK? Dans le pire des cas, là, pense-y, là, on l'attend à plusieurs en dehors de l'école, bon, etc. Donc, j'ai travaillé avec lui sur plusieurs années. Pas nécessairement toutes les semaines, mais tu sais, selon les situations, tout ça, travailler vraiment son estime, sa confiance, sa capacité de se défendre, de mettre ses limites,
ouais.
Tu sais, son côté, réveiller son côté rebelle. Puis, je l'ai revu il y a quelques semaines.
Et?
J'avais pas eu de nouvelles. Premièrement, il a grandi, là. Tu vas dire qu'à côté de moi. Mais il a vraiment grandi. Et il m'a présenté sa conjointe. Il se marie cet été. Il est devenu médecin.
Oh boy, OK.
OK. Et quand il m'a vu, lui, il m'a reconnu, pas moi, ben parce que je l'avais vu en secondaire 3 la dernière fois, tu sais. Puis sa tenue, sa façon de se tenir, sa façon de, tu sais.
C'était plus la même personne.
Plus la même personne. La première chose qu'il m'a demandé, c'est « Je peux-tu te prendre dans mes bras? » Depuis des années, je souhaite le faire. Fait que c'était la bonne voie à suivre. Tu sais, c'est grandir à travers nos difficultés nous amène à des endroits insoupçonnés.
Ça, ça peut être... Tu sais, ce service d'aide-là que tu offres, ça peut être pour plein de choses. La confiance en soi, toute part de ça. Des trucs qui se sont passés dans ton enfance. Je parlais... je t'ai donné au hasard des enfants adoptés. Ça doit être terrible. Moi, j'ai pas été adopté, mais ça doit être terrible de dire, attends un peu, là, moi, je suis venu au monde... Puis on m'a donné à un orphelinat, puis quelques années plus tard, j'ai été adopté, puis là, ils m'ont shippé au Canada, j'ai atterri au Québec. Puis là, il y a des gens qui sont là qui m'aiment, mais t'es dans l'incompréhension totale de pourquoi t'as été abandonné. Ça, faut que tu comprennes qu'à un moment donné, faut que tu parles de ça, là.
Puis c'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'en vois dans ma clientèle. beaucoup de maintenant de gens qui vont adopter de l'extérieur, d'une autre nationalité, mm-hmm. ou des gens qui vont adopter de la DPJ. Donc, et ces enfants-là grandissent. Et quand tu prends l'adoption, il y a des gens qui vont remercier les parents de les avoir donnés en adoption en se disant qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait et qui ont eu une belle vie. Donc, il y a des gens qui vont être reconnaissants. Alors qu'il y en a d'autres qui vont être complètement dans l'anxiété d'abandon, d'avoir été pas choisi, abandonné, de bon, etc. Il y en a d'autres qui sont à la recherche parce qu'ils ont besoin de comprendre d'où ils viennent. Puis il y en a d'autres qui ne veulent pas le savoir parce que leur vie actuelle, c'est celle qui les rend tout à fait bien. Et... Fait que, mais tu sais, on porte, tu sais, on disait tantôt, on porte ce qu'on a vécu, mais il y a la résilience. La résilience veut dire qu'est-ce que je vais faire avec ce que je porte. Résilience veut dire je vais m'en servir. Est-ce que tu connais le vase japonais?
Le vase japonais?
Connais. Non. Non, OK. Voyons, un ben des affaires, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Le vase japonais, il existe au Japon, un vase laqué noir que tu as peut-être déjà vu sur des images, tu sais, avec des petites fleurs de lotus blanc dessus. Là, tu sais. Ce vase-là, puis tu sais que les Japonais, ils sont très minutieux. Là.
Oui.
Quand ils sont très chers, ces vases-là. Quand ils tombent à terre...
Ils sont comme moi quand je vois une bonne bouteille de vin.
Voilà la comparaison. On remarque ton côté épicurien. Donc, quand ils tombent puis qu'ils se cassent, ici, on prend le balai puis on se dit « fuck you ». Là-bas, ils recollent morceau par morceau avec de la bordure d'or. Et plus il y a de la bordure d'or, plus le vase prend de la valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as été brisé par la vie... Là, ben de recoller les morceaux avec la bordure d'or va te donner une valeur plus grande. C'est ça, la résilience. C'est devenir plus grand à travers les épreuves. C'est de s'en servir pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Et plus tu as été brisé, plus cette bordure d'or, elle est présente. Puis ça, c'est une image de « je peux choisir d'avoir des morceaux par terre puis de dire « de toute façon, moi, regarde ce qui m'est arrivé » ou de dire « regarde ce qui m'est arrivé, puis moi, je vais bien aller. »
Paul Lévesque, bon, on parlait de gens qui pouvaient avoir certaines problématiques dans leurs relations interpersonnelles, patati et patata. Dans ta clientèle, tu es spécialiste du comportement humain, tu es éducatrice spécialisée. Y a-t-il une différence entre les gens qui ont eu deux parents aimants puis des gens qui n'ont pas eu de père ou des gens qui n'ont pas eu de mère? Ça magane-tu plus le monde qui n'ont pas eu un des deux une fois rendu à l'âge adulte, à 30 ans, 40 ans, 50 ans? Est-ce qu'il y a un manque? T'sais, moi, mon père n'était pas là quand j'étais jeune, mais j'ai eu des modèles masculins. J'ai Rosaire qui doit nous écouter à l'heure actuelle, la famille La Montagne, qui m'ont recueilli, puis qui était là, assisté de ma mère. Puis moi, mon modèle masculin, plus tard, c'était mon père, parce que j'ai connu mon père plus tard. J'étais une histoire d'un soir, moi. Mais la famille qui m'a recueilli, qui m'a donné des valeurs fondamentales, c'est les La Montagne. Mon modèle masculin, c'était Rosaire. Puis, quand je regardais des chums qui n'avaient pas de père, bon Dieu, qui se cherchaient. Puis, ils étaient élevés par leur mère. Puis, au bout de 30 ans, 40 ans, ça semblait pas évoluer leur affaire. Il leur manquait une petite affaire. T'en pognes-tu du monde qui sont un peu maganés par le fait qu'il manquait un des deux parents ou qu'il n'y avait pas de parents pantoute?
Ils ont été maganés quand ils ont été abandonnés. La façon d'être aimé fait toute la différence. Il y a des gens qui ont eu les deux parents présents puis qui se sont sentis abandonnés. Pas aimés, pas accueillis, organise-toi tout seul. C'est la présence, la façon d'être aimé, on appelle ça l'amour inconditionnel.
Mm-hmm.
Si t'as été aimé de façon inconditionnelle par des gens autour de toi qui t'ont aidé à grandir, le manque est beaucoup moins présent. Mais si, dans ton enfance, tu n'as pas été aimé inconditionnellement, et que... Puis, tu sais, il y a des gens qui vont... Puis, avoir un père puis une mère, c'est des racines. Hein? Des racines qui coulent. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont besoin absolument de connaître la deuxième racine. Il y a des gens qui n'auront pas ce besoin-là parce qu'ils ont fait pousser d'autres racines à côté. d'autres modèles, d'autres personnes qui ont pris la place. Tu sais, chaque individu accueille pas les choses de la même façon.
Puis avec des efforts, Paul, est-ce que tu peux oublier les manques que tu as eus de la part de ta mère ou de ton père? Puis de passer à d'autres choses? Parce qu'à un moment donné, quand tu es rendu à 30-40 ans, tu as déjà 4 décennies, tu n'es pas passé à d'autres choses, puis ta vie est souffrante à cause de ça, sans peut-être même le savoir. C'est-tu possible de guérir de cette blessure-là d'enfant?
Le point de départ, là, je vais te le dire. Puis là, ça a l'air bien beau quand on se parle, là, mais tu sais, c'est des points de repère. Là. C'est de se dire, parce que j'ai vécu, prenons l'exemple du père absent. OK, ouais. De toutes sortes de façons. Il peut être là, puis pas être là, tu comprends? Ouais. Il prend de la dope, ou il n'est pas là, ou en tout cas... Tu peux vivre toute ta vie en disant, « Moi, j'ai eu un père absent, là. C'est ça mes manques. C'est pour ça que je ne suis pas capable d'aimer. C'est pour ça que je suis mal aimée. C'est pour ça que... » OK? Tu peux aussi dire, « Parce que mon père ne m'a pas aimé, je suis devenue ce que je suis devenue dans la force de ce que je suis. » Parce que quand on a vécu des choses difficiles, on a été brisé à certains égards, mais ça nous a mis fort à d'autres égards. Et c'est où tu vas porter ton attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter si tu en as besoin, qu'il n'y a pas un travail sur soi, c'est pas ça que je dis. Mais notre façon de percevoir ce qui nous est arrivé va donner une direction différente à notre façon de s'engager dans la vie. Oui. Donc, ça peut devenir une excuse ou ça peut devenir... une façon de se véhiculer en étant plus fort.
Puis en 10 secondes, faut-tu pardonner à ces gens-là?
Faut se pardonner à soi.
Mais est-ce qu'on doit passer par le pardon avec ces gens-là?
Le pardon à soi. Parce que ce que je remarque, c'est que les gens qui ont vécu un manque se culpabilisent. J'ai pas été à la hauteur, j'étais pas correct. On est porté à se culpabiliser à travers ça. Et c'est ce qu'on reproduit. Je dois toujours faire plus pour être aimée parce que mon père m'a abandonnée. Je n'ai pas été à la hauteur. J'avais été à la hauteur, il serait resté, etc. Donc, se pardonner d'abord, de se dire, je me pardonne de ce qui pourrait être en lien avec ce que je vis. Donc, d'être en paix avec soi d'abord, nous permet de mieux vivre avec les autres.
J'adore. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. Pour les gens qui veulent te rejoindre, je dois faire une courte pause. Tu vas être avec nous après la pause. Mais pour les gens qui veulent te rejoindre, on te rejoint de quelle façon?
Paul Lévesque, pas d'accent. Tape ça, tu vas me retrouver. PaulLévesque.net, Paul Lévesque. Écoute,
la madame avec les cheveux rouges.
Tu vas me retrouver, c'est sûr.
6 et 4, 6 et 5, grande de même.
Je réponds pas à ça.
Ou 5 et 6, non, même pas. Non. 5, non, non pas plus.
Il m'a amené tantôt un tabouret qui devait mesurer 8 pieds. Il m'a demandé d'embarquer dessus. Pour ceux qui ne me voient pas, je mesure 4 et 10.
Ouais, mais c'est une chaise haute. T'as pas
non,
voulu
non,
embarquer.
C'est ça. Ouais.
On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1 pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Et si tu donnais un sens à ton été? Chez Laura Les Merveilles, chaque journée est une occasion de tisser des liens, de t'amuser et surtout de faire une différence dans la vie de jeunes en situation de polyhandicap et de leur famille. En étant accompagnateur-accompagnatrice, tu profiteras d'un horaire flexible, d'avantages sociaux et d'une équipe sur laquelle tu peux compter. Postule dès maintenant sur lauralesmerveilles.ca. Cet été, tu penseras changer leur vie et tu réaliseras que ce sont eux qui changeront la tienne.
Salut, c'est PA! Hey, l'autre jour, en mettant mon vieux manteau, j'ai trouvé 10 piastres qui étaient restés dans mes poches. Hey, c'est-tu le fun, hein, de trouver de l'argent?
Et vous n'avez pas fini d'en trouver avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Grâce au Boni Nissan et au retour des subventions, obtenez jusqu'à 8000 $ de rabais sur la Nissan Leaf électrique. 0% d'intérêt à la location sur 48 mois et aucun acompte à verser. Fini l'essence, gardez plus d'argent dans vos poches. Avec Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, c'est le temps de changer.
Hélène, tu joues vraiment bien.
Ah, oh, merci. C'est grâce à Grégory Charles.
Grégory Charles, le musicien?
Oui, c'est lui qui m'a appris à jouer du piano. Je voulais avoir une base parfaite.
Recevoir des conseils de professionnels pour atteindre nos objectifs, c'est ce qu'on veut. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne nos avoirs. Chez Desjardins Gestion de patrimoine, notre expertise est au service de votre patrimoine.
Le printemps arrive. C'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais à l'achat d'équipements chez Enviro-Confort. Bénéficiez aussi des remises des manufacturiers ainsi que des subventions gouvernementales actuellement disponibles pour un max